ولا يناسب لطالب العلم أن يئس. N'est pas convenable pour l'étudiant qu'il se décourage, qu'il désespère. Lorsqu'on parle de combat dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire djihad, fi sabilillah. Qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe, djihad? Ça veut dire les efforts, le combat, les efforts. Les savants ont dit que le talab al-ilm fait partie des formes de combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même certains savants comme Sheikh Muqbal rahimahullah ont mentionné que c'était plus, encore plus valorisant, plus méritoire, la recherche de la science que le combat avec les armes dans le sentier d'Allah. Conclusion. Qui dit combat dit effort, dit patience, dit répétition, acharnement, volonté, motivation, immenses efforts. Croyons-nous que les plus grands, parmi les plus connus de notre communauté, ont atteint leur place respective avec facilité, simplicité. Les salafs, salaf al-umma, les savants de notre communauté nous disent le contraire. Car il y a une parole très connue chez les salafs qui dit La yanalu l'ilm, birihat al-jasad. On n'atteint pas la science par le repos du corps. Kama qala al-ulama, al-ilm. يحتاج إلى صبر ومشقة وتعب. La science, comme l'ont dit les anciens, elle demande de la patience, de la difficulté, de la fatigue. À un point qui est pratiquement en voie d'extinction à notre époque. Ce que demande la science en réalité de ce qu'on sait de nos salafs, salafuna salih, was salaf. Pieux prédécesseurs comme les compagnons et les salafs, ceux qui les ont suivis. On sait d'eux qu'ils ont fourni des efforts hors du commun qui sûrement sont en voie d'extinction à notre époque. Cela n'est pas dans l'absolu, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme en voie, mais pas éteint, en voie d'extinction. Pour vous citer un exemple de la perception des efforts à fournir dans la science pour atteindre un niveau ou pour atteindre la compréhension qui n'est pas forcément acquise dès le début, comme nous le dit Cheikh Al-Uthaymeen, beaucoup de gens, si vous voulez un dalil, hein, comme nous l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans notre Kitab ul-Ilm, dans notre point numéro 12, le dernier cours, beaucoup de gens ont de la science. Ils ont du ilm, du bagage. Mais ils n'ont pas la compréhension. Donc vous voyez, on peut étudier, on peut avoir du ilm, mais on n'a pas la compréhension. Nous avons connu à l'institut de notre cheikh Mokbel Rahimahullah, à l'époque, un élève qui nous faisait part de sa méthodologie dans la recherche de la science. Il disait, moi j'ai fait une analyse et des calculs et j'étudie toute la nuit. Et la journée, je vais juste faire mes salawat. Mais j'ai vu que la nuit, il n'y avait pas d'interruption. Tu pouvais étudier plusieurs heures d'affilée sans interruption. Alors il disait, moi j'étudie la nuit. C'est un exemple. Il y a des gens, lorsque nous étions à l'institut, et ceci est une preuve que c'est Allah Ta'ala qui donne à qui il veut. Il y avait des gens du monde entier. Il y avait des gens du monde entier, des Américains, des Allemands, des Anglais, des Irlandais, tous les pays, tous les continents. Comment ces gens-là, dont la langue arabe n'est pas leur langue maternelle, qui ont dû donc fournir plus d'efforts que les autres, puisque l'accent anglais, anglophone, il est très fort. Même quand quelqu'un deviendra arabophone, on reconnaîtra tout de suite que c'est un anglophone, un anglais ou américain. On reconnaît tout de suite. Malgré ça, ils ont persévéré, ils ont maîtrisé la langue arabe. Malgré ça, ils ont persévéré, ils ont mémorisé le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la compréhension. Fais les efforts. Fournis tous les efforts possibles dans la recherche de la science. Mais il a bonne intention. Car croyez-vous que quelqu'un qui a une mauvaise intention, Allah Ta'ala le fera réussir? Également, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la bonne compréhension de la religion? Deuxième fois, également, veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension de la religion? Troisième fois, veux-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension de la religion? Réponse. Alors fais un examen de conscience. Fais un examen de toi-même, un constat de toi-même. Si tu baignes dans la désobéissance et dans les péchés et dans l'injustice, ne te pose pas de questions. La science est une lumière qui ne se mélange pas avec un cœur qui est déjà mort. Allah connaît les cœurs. Allah connaît toute personne. Allah connaît toute chose. Allah sait ce qu'on pense. Allah sait ce qu'on fait. En public et en privé. Et rien ne lui échappe. Donc, examine ton cœur, examine tes paroles, examine tes actes. Et tu sauras s'il y a une défaillance à remédier. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette grâce qu'on appelle at-tawfiq, la réussite. L'étude de la science, talibul ilm, c'est comme la hijra, l'émigration. Tout le monde peut faire le premier pas. Tiens, je vais étudier. Tiens, je vais émigrer. Ça, c'est la première étape. Mais ce n'est pas forcément la plus importante. Et la plus déterminante. On a déjà expliqué tout au début dans la présentation de l'Institut, on avait donné l'exemple du marathon. Tout le monde peut s'inscrire à un marathon, même un vieux de 90 ans, ou même un petit de 4 ans. Tout le monde peut s'inscrire. Donc s'inscrire, c'est à la portée de tout le monde. Mais suivre le cheminement, le parcours, le programme, le long acheminement de la recherche de la science, c'est tout autre chose. Est-ce que tu vas terminer le marathon? On ne te demande pas d'arriver le premier. Si tu arrives le premier, c'est formidable. Mais vas-tu terminer jusqu'au bout le marathon? C'est ça qu'on te demande. C'est pas grave. Prends ton temps. Comme vous avez vu à l'Institut, il n'y a pas de pression. Prends ton temps. Pas de souci. Mais termine le marathon. Donne-toi les moyens. Tous les moyens en œuvre. Ne dis pas je passe ma journée dans la dunya, mal'ouna, maudite. On se comprend, hein? Je ne révise pas. Je donne pas d'intérêt à mon apprentissage, je n'en fais pas une priorité. Déjà que si tu en fais ta priorité, et que tu donnes tout ce que tu as de toi-même, les savants disent, elle t'en rendra un tout petit peu la science. Wallahu Akbar. Elle t'en rendra un tout petit peu la science. Alors imagine-toi, si tu lui donnes un tout petit peu, qu'est-ce qu'elle va te rendre? Et qu'en plus tu n'es pas sincère, et qu'en plus à travers ça tu fais de l'injustice, tu fais des grands péchés, tu désobéis aux parents, tu traites tes parents comme des moins que rien. Déjà, on dira qu'il y a défaillance. Qui dit défaillance dit manque dans le talabelain. Il y aura un manque. Il y aura un manque. Et après, il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi on ne comprend pas ou pourquoi on n'arrive pas à mémoriser ou pourquoi ceci, pourquoi cela et pourquoi cela et pourquoi ceci. À ce propos, il y a, des textes qui témoignent de cela. Je cherche. Il y a un blanc parce que je cherche une invocation. Une invocation. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis en train de la vérifier. Alors, concernant la science, ça, on n'a pas besoin de faire. On n'a pas besoin de confirmer que c'est authentique, etc. On sait tous que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, disait chaque jour après salat al-fajr, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, donne-moi la science utile. Donc on sait que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il demandait la science, et pourtant c'est le plus instruit de tous les êtres, de toutes les créatures. C'est le plus grand savant de la communauté. Naham. Il y a également, et c'est ça que nous cherchions, barakallahu fikum, il y a également une invocation du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et regardez, écoutez, où le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, disait « Allahumma faqihni fid-din. Allahumma allimni al-kitaba wal-hikma. Oh Allah, donne-moi la compréhension de la religion. Oh Allah, enseigne-moi le livre, le Coran et la Sunna. » On nous dit cette invocation est tirée de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a demandé, qu'il a faite pour Ibn Abbas, radiallahu anhu. Oh Allah, donne-lui la compréhension dans la religion. Et pourtant, on voit que ce sont des gens, le prophète, Ibn Abbas, des grands savants de la communauté. Ils demandaient quoi? La compréhension. Ils demandaient à Allah au Ta'ala la compréhension dans la religion. Alors, qui sommes-nous, nous? Qui sommes-nous? Wallahu al-musta'an. Donc ceci, une petite introduction que nous ferons partager dans le deuxième cours, si vous nous le permettez, puisque souvent il y a des paroles, des petites exhortations, introductions qui ne se font pas forcément sur commande. C'est comme, par la grâce d'Allah Ta'ala, Wallahu A'lam, wa la uzakki 'ala Allahi ahada, c'est comme une sorte de d'inspiration. Et ça ne se fait pas sur commande. Quand ça vient, eh ben ça vient. Mais souvent, ce sont des exhortations qui touchent tous les élèves. Et c'est pour ça que on dit qu'on la mentionnera, on la revisionnera dans le deuxième cours. Le cours où il y aura, inshallah ta'ala, le plus d'élèves, puisque c'est un cours général, alors qu'ici nous sommes dans un cours khas, privé, particulier. Donc, notre cours de Usul al-Fiqh, justement, et là ça vous concerne. C'est que Usul al-Fiqh, c'est une noble matière qui ouvre, augmente la perception et la compréhension. Cette matière, Usul al-Fiqh, pour celui qui va bien se pencher dessus correctement, ça va lui augmenter la perception, el-idrak, et ça va lui augmenter la capacité de compréhension et de perception. Bi-ithnillah, par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ne pas négliger, et il faut persister. Il faut persister. Il ne faut pas s'empresser car l'empressement vient du shaitan. Il ne faut pas se décourager car le découragement vient du shaitan. Et il ne faut pas s'attrister car l'attristement vient du shaitan. Il ne faut pas s'angoisser car l'angoisse vient du shaitan. Mais il faut plutôt être motivé. Être, avoir la poitrine, le cœur ouvert, élargi. Pour que l'esprit soit léger pour recevoir. Le bagage scientifique. Alors on est plus apte à recevoir les sciences religieuses et à étudier si on n'a pas de problème en tête, pas d'occupation en tête. Il faut se consacrer entièrement à l'étude de la science pour réussir dans celle-ci. Cheikh Mokbel Rahimahullah a dit: si nous nous serions occupés des problèmes, là où anfusana bil mashakil, ma talabna l'ilm, on n'aurait pas recherché la science. Naham. Donc, bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Notre cours de Usul al-Fiqh porte sur les jugements légiférés. Les jugements légiférés, ce sont des jugements obligatoires, interdits, préférables, recommandables, détestables, permis. Ça, ce sont des jugements, on est d'accord. Légiférer, car légiférer par Allah subhanahu wa ta'ala, dans la législation de l'islam. On a vu dans les cours précédents, on avait commencé à parler déjà du jugement en lui-même. On avait fait un cours sur al-hukm, le jugement. Ensuite, on avait fait un cours sur l'obligation. Que nous avions terminé. Et maintenant, nous allons faire un cours. Nous entamons un nouveau chapitre sur le recommandé Al-Mandoub. Al-Mandoub. Alors, parmi les élèves, qui peut nous dire alors, je n'ai pas de réponse précise en tête, hein. Les réponses peuvent être variées. À vous de voir. Qui peut nous dire pourquoi des jugements? À quoi servent ces jugements? Et quelle est l'importance de les connaître, ces jugements? Naam, pratiquer correctement. Barakallahu fik. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ne pas tomber dans. Hop, et ça a sauté. Alors, je vais regarder ça. Pour ne pas tomber dans l'illicite et risquer l'enfer. Naam, naam, bonne réponse. Avoir une connaissance profonde du pourquoi d'un ordre. Naam, très bien. C'est bien. Très bien. Naam. À quoi sert le wajib? À quoi sert le haram? Aussi pour suivre la sunna. Naam, mashallah. Aussi pour suivre la sunna. Naham. Ce genre de questionnaire, de question, c'est une manière pour l'enseignant de mesurer la compréhension et la perception des élèves, aussi pour suivre la sunna, pour aussi vivre en communauté. Naham. Quelle est la fonction, d'une manière respectueuse et en harmonie? Naham. Quelle est la fonction des jugements obligatoires, interdits, illicites, préférables, détestables? Quelle est la fonction? Quelle est la faïda de ces jugements pour nous diriger? Naham. Naham, Ahsant. Nous guider. Naham. Savoir où il y a les récompenses, etc. Naham. C'est un repère, tout à fait. Donc les deux questions se rejoignent hein, pour nous diriger, pour nous guider. C'est un repère. Naham. Très bien, très bien. Exactement que c'est un repère, parce que si on ne connaît pas l'obligatoire, on ne différencie pas de l'obligatoire, de l'interdit, il y aura un problème. On aura un manque de repères, donc c'est vrai. Ça nous dirige, c'est un repère. Non. Alors on dira que ce sont nos étudiantes qui ont plus de compréhension et de perception que nos étudiants. On dira ça? On termine sur ça, sur ce jugement alors. On dira ce sont les étudiantes qui ont plus de perception et de compréhension que nos étudiants. Les jugements servent à quoi? Obligatoire, interdit, détestable. Pourquoi? Tout est obligatoire et khlas, c'est terminé. Pour nous aider à différencier entre chaque acte. Exactement. Très bonne réponse. Peut-être qu'Allah veut la justice pour nous et l'équité et la facilité. Naham, j'avais le terme facilité en tête. La religion et la facilité. Si tout est interdit, on n'a plus rien à pratiquer. Ah, subhanallah, c'est peut-être moi le... Allah, les frères ont sûrement dû répondre. Mais sur le portable, j'avais oublié. Alors là, si les frères ont posté, veuillez m'excuser, je vais ouvrir la tablette. J'attendais sur le téléphone, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Alors que j'ai oublié, comme je m'étais débarrassé du téléphone, il n'y a plus Telegram sur le téléphone. Il n'y a plus Telegram. Ah, effectivement. Alors, excusez-moi, très cher frère. Assalamu alaikum, ces jugements servent à se comporter d'une certaine manière selon la personne ou selon la chose qui sera en rapport avec elle. Très bien. Pour papa, Abdallah, les jugements permettent de savoir ce qui est prioritaire ou interdit pour pratiquer sa religion avec conscience et compréhension et évident. L'illicite, en s'approchant de la perfection tout en s'éloignant du djerh. Car comme on l'a dit, la base c'est d'apprendre pour enlever le djal, soit être ensuite l'enlever des autres. Très bien. Le djal, pardon, le djal, Naham Abdallah, Ahsant. Papa, ces jugements permettent aussi de guider le serviteur vers ce qui lui est utile pour lui-même et également pour le guider vers ce que aime Allah ou pas. Tout à fait. Tout à fait. L'homme a besoin de savoir où il va et quoi faire, et peut-être que cela peut être également une preuve contre nous ou pour nous. Et très bien. Très bien pour l'étudiant. Abdallah, non, Ustaz, attendez, jamais. Les jugements permettent le suivi de l'islam parfait en s'éloignant des erreurs et permettent de savoir qu'il faut éviter ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire. Très bien, Abdallah. Très bonne réponse. à Oustaz, ne lisez plus les sœurs, mais lisez-nous, on veut gagner. Masha'Allah. Zied, pour ramener les gens sur la droiture et suivre la sunna. Très bonne réponse, cher Zied. Très bonne réponse. Et ben voilà, c'est une affaire qui marche. Wallahu musta'an, hein. Moi, j'attendais sur le portable alors que le groupe n'est plus sur le téléphone. Puisque il a été supprimé, le télégramme a été supprimé du téléphone. Wallahu musta'an. On a même changé de numéro de téléphone. Enfin, changé, j'en avais deux. On a supprimé le numéro français et on a gardé le numéro anglais. Donc voilà. Taïb. Aujourd'hui, on va parler du recommandable. Mashallah, Abdullah, mashallah. Hayakallah. Hayakallah. Aujourd'hui, on va parler du recommandable. On nous dit le recommandable dans la langue arabe. C'est comme inviter hein, à pratiquer quelque chose. Donc là, il y a la notion d'invitation, d'invitation, c'est-à-dire c'est un sens. Hein. Ça veut dire que on n'oblige pas. Mustahab, non. Mandoub. Mandoub. Alors moi, je n'ai pas le clavier arabe, sinon je vous aurais écrit. Je vous l'aurais écrit en arabe. Je vais l'écrire à l'admin de votre côté. Et elle va vous l'envoyer, Inch'Allah. Je vais l'écrire en arabe. Sur la tablette, comme j'ai l'arabe sur la tablette. Mandoub. Oui, c'est ça. C'est ça. Mandoub, c'est bien ça. Exactement. Non, c'est pas Ahassa. C'est Mandoub. 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 Dans la terminologie, c'est pas pareil que le mustahab. Wafik barakallah. Mandoub. Alors, dans la langue arabe, cela est tiré de dua ou daa. Il a le fi'l, c'est d'inviter hein, à faire une action. Dans la législation, alors là, attention, définition du mandoub. Le mandoub, on a dit que c'était quoi? Le recommandable. Hein. C'est bien ça, on a dit le recommandé. Hein. J'espère ne pas avoir dit sabaq al-lisan et j'aurais dit le préférable, hein, parce que ce n'est pas le préférable, c'est le recommandé. J'avais dit préférable? Ah d'accord, recommandé, alhamdoulillah. Ma fi fi'lihi thawab, wala iqab fi tarkihi. La définition donc du recommandé, c'est être récompensé pour le faire. Être récompensé pour le faire. Et il n'y a pas de châtiment pour le délaisser. Si vous n'avez pas tous noté ou enregistré ou quoi que ce soit, vous voulez que je répète, nous répéterons, Inch'Allah ta'ala. Avec la tablette, c'est un peu compliqué parce qu'il faut la rallumer à chaque fois. Mandoub, c'est ça, papa. Faut la rallumer à chaque fois pour voir s'il y a des messages, mais on le fera. Donc s'il y a un petit décalage, ne vous sentez pas abandonné, les frères. Hein. Ne vous sentez pas abandonné. Hein. Taïb. Taïb. Alors quand on regarde cette définition, et comme on nous le dit, qui est la plus complète, comme si c'était la mieux, hein, on nous dit dans notre manuel, hein, cette définition. Quand on regarde cette définition, eh ben, comme vous avez su si bien le répondre, lorsqu'on vous a questionné, lorsqu'on vous a demandé quel est le but, quels sont les fawaïd, on ne peut pas toutes les citer. Et on ne peut même pas toutes les connaître. Il y en a sûrement qui nous échappent, même à nous en tant que enseignants. Les fawaïd des jugements. Eh bien, on voit dans cette définition. Quels sont les fawaïd dans cette définition? On peut déjà tirer qu'il y a le profit à connaître là où il y a une récompense d'Allah au Ta'ala. Et il y a également le profit de connaître les jugements, de connaître là où il y a un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, une punition. Puisqu'on le voit bien, on va vous répéter la définition. Qu'est-ce que le mandoub, le jugement de ce qui est recommandé? La définition, c'est le faire, le pratiquer, revient à une récompense. Et le délaisser, il n'y a pas de châtiment. وهذا أجواد التعريفين الذين ذكرهما ابن القدامى لدينا plutôt le duel ذكرهما ابن القدامى ابن قدامى وهذا هو حكم مندوب فهو تعريفه بحكمه. Donc c'est ce qu'on a dit précédemment. Hein. Ibn Qudama, il a mentionné deux définitions, mais que la meilleure, c'est celle qu'on vient de vous mentionner. Il y a, donc on vient de vous dire qu'il y avait une deuxième définition, on va vous la donner. Une deuxième définition pour le recommander, mais qui n'est pas la plus répandue, la plus adéquate, la plus. On dit que ici, les savants ont choisi pour nous dans notre manuel celle qu'on vous a mentionnée. Le recommander, c'est le fait de le faire. Il y a une récompense. Le fait de le délaisser, il n'y a pas de châtiment. La deuxième définition, on nous dit alors, sinon on peut dire Ma amara bihi amran ghayru jazim. C'est ce qu'a Ma amara ou Ma umira bihi, c'est ce qui nous est commandé. Mais pas d'une manière obligatoire. Je vous ai simplifié, hein, je vous simplifie le sens. Je vous rapporte le sens simplifié, parce qu'on ne peut pas faire du traduction mot à mot. Les spécialistes de la traduction disent l'important, le plus important, celui qui veut remplir son rôle de traducteur, c'est de traduire le sens. Parce que des fois, tu peux même faire du mot à mot et les gens ne comprendront pas si tu n'as pas transmis le sens. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est ce qui est ordonné d'une manière qui n'est pas obligatoire. C'est ce qui est quelque chose qui est commandé, mais d'une manière qui n'est pas obligatoire. طيب Maintenant, ici, on va nous mentionner quelques formes des exemples de recommandés, quelques formes et quelques styles. Parce que le recommandé dans les textes du Coran et de la Sunna, il vient sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes, plusieurs styles. Donc ici, on va nous en mentionner quelques-uns, voire trois. On nous dit, alors la première forme de recommandé, c'est que le recommandé vient sous la forme d'une recommandation claire et sans détour. C'est-à-dire, lorsque tu vas trouver dans un texte une situation qui passe d'un ordre à un recommandé. On peut trouver dans des textes une situation où ça passe de l'ordre au recommandé. Alors peut-être qu'on ne connaît pas ça, on est débutant, mais on va vous donner des exemples. Je sais que ils n'ont pas mentionné le numéro du verset, donc je vais regarder. En tout cas, je sais que c'est dans Sourate al-Baqara, ça c'est sûr. C'est Sourate al-Baqara. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Ça, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il faut écrire lorsque vous voulez transcrire, faire une transaction, plutôt un prêt. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Le mettre sur écrit. Alors, on va vérifier la traduction du verset. Comme vous le savez, moi, j'aime pas traduire les versets. Ida tadayantum. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا فليكتب بينكم كاتب بالعدل. Alors ça c'est, on sait très bien que c'est le Baqara, mais c'est 282. Verset 282. Tamam. Alors, avec l'allergie, bien entendu, on marche au ralenti, hein, comme vous le savez. Al-Baqara. Ralenti, mais alhamdoulilah, on a des marques, on sait comment chercher, on sait où chercher, ça fait gagner du temps. 282, nous y sommes. Oh les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Mettez-la en écrit. Sarrafahu min al-wujub ila nudub. On nous dit, mashallah, oui, c'est vrai que le... mashallah, c'est vrai que le verset, il est très long. C'est vrai. C'est un seul verset, mais à la kulli hal, dans le Coran, il fait une page. Hein. Ça, c'est une page de Coran. Alors, pourquoi cet exemple? Par rapport au mandoub, au recommandé. On nous dit parce que... On nous dit parce que... Dans ce verset, Allah Ta'ala, il passe de l'obligation au recommandé. Il passe de l'un à l'autre. Et ça, c'est un style. C'est un style et c'est une forme pour montrer le recommandé. Pour connaître le recommandé. Alors, on nous dit, après ce verset, hein, pas le verset tout entier, ce qu'on a dit le début, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit, ça c'est l'obligation. Ça, c'est l'obligation. Mettez-la en écrit. Ça, c'est l'obligation. Mais on nous dit après, Allah, subhanahu wa ta'ala, à la suite du verset, est passé de l'obligation à la recommandation lorsqu'il a dit Fa'in amana ba'dukum. Aou, Fa'in amina ba'dukum. Alors, il faut que je retrouve là, ici. Ne vous inquiétez pas, on le connaît, hein, ce verset. On le connaît par cœur. Hein. Je cherche juste la suite. On va lire tout le verset comme ça. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل أو امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل مسمى ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبيعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Donc ce n'est pas là, ce n'est pas dans ce verset la recommandation. C'est dans la suite. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Donc on n'a pas pratiqué les règles de tajwid, hein, comme vous le savez, parce qu'on n'était pas en train de réciter ici. Naham. Donc ça ne signifie pas qu'on ne connaît pas les règles de tajwid. Taïb. Donc la suite, elle n'était pas dans la première page, mais elle est dans la suite, verset 283. La suite dans le Coran. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé la recommandation dans la première page. Faudrait peut-être la lire en français, Allah Musta'an. Je ne l'ai même pas lu en français, la recommandation. Alors on recommence, je reprends mon Coran. Sourate Al-Baqarah, verset 283. Et nous y sommes. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. Un gage reçu suffit. Donc là, on est passé de l'obligation, un gage reçu suffit, ça veut dire on est passé à la recommandation, comme on nous le mentionne ici. Donc, Inch'Allah Ta'ala. Par rapport à nos horaires, notre cours touche à sa fin. Inch'Allah, bi'iznillah, par la volonté d'Allah Ta'ala, on continuera dans un prochain cours. On avance, hein, doucement mais sûrement. Et ça vous permettra, excusez-moi, comment faire la différence entre la recommandation et l'excuse du voyage dans ce verset. Alors, 2 petites secondes, on va revenir au verset. D'abord, je vais répondre à la première question et ensuite vous pourrez poser votre question, Inch'Allah Ta'ala. Alors profitez-en pour la poser, il n'y a pas de souci, hein. Mais d'abord, je vais répondre à la première question, si nous en avons là les connaissances, bien entendu. Alors, dans le premier verset, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. Mettez-la en écrit, ça c'est une obligation de la mettre en écrit. Excusez-moi, comment? Alors, la deuxième, mais si vous êtes en voyage et vous ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. Excusez-moi, comment faire la différence entre la recommandation et l'excuse du voyage dans ce verset? Alors, Inch'Allah ta'ala, je préfère faire une petite recherche et donner la réponse à la suite. Parce que là, il faut revenir à l'explication. On n'a pas, si vous préférez, ici, on nous donne juste l'exemple. On n'a pas le tafsir. On n'a pas le tafsir du verset. Mouhim, on n'a pas. Je n'ai pas la réponse, Allahu alam. Mais rien n'empêche, on va là faire une recherche et on vous dira, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun souci. Mais là, je n'ai pas du tout la réponse. Wallahu a'lam. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Alors, Naram, c'est verset 243. Alors, concernant la deuxième question, où se trouve la deuxième? Wafikum barakallah, on fera la recherche, Inch'Allah ta'ala. Puis-je poser une question, Marlem, s'il vous plaît, hein? Quelle est la différence entre al-mandoub ou al-mustahab? والمندوب والمستحب أجمع الفقهاء الإسلام على أن الواجب والفرض شيء نفسه والحكم ذاته حيث يستحق فعلهم لأجر والثواب بينه وتركهم يقع في الندب ويستحق العقاب ولكن الفرق هنا يكون بينه وبين المستحب إذا أن المستحب هو المندوب الذي يساب فعله بين تركه لا يقع في الإثم. Alors, on regarde les différentes réponses concernant la différence. Normalement, c'est la même chose, mais on regarde peut-être qu'il y a une divergence. Ou... الفرق بين المندوب والمستحب وما هي عبادات وقوع في العصية والغذاء من الله والفرق بين المندوب والمستحب تغيير الواجب أو المستحب السنة والواجب Nous, on a tellement d'informations dans la tête qu'il y en a beaucoup qu'on oublie. Hein. Il y en a beaucoup qu'on les a certainement vues, mais voilà. Hein. Donc ça, si on ne trouve pas tout de suite, également, ça sera une question reportée. La réponse sera reportée. On répondra par Allahu A'lam. Mal farq bayna sunna wal mustahab wal mandoub. Notre grand savant. On va voir s'il y a la réponse. Sinon, on y répondra plus tard. هذا السؤال يتعلق بأصول وقد بين العلماء أن هذا من اصطلاح في استعمال الفقهاء عند استدلال السنة واصطلاح الصالحين ولا يجب يعني يستحب ولا يجب الواجب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فعله وتقريره يعني جاء في أسماء الفقهاء على المندوب ويطلق على المحدثين على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأما المندوب والمستحب فإنه بمعنى واحد. طيب Donc ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est bien ce qu'on pensait, mais on n'a pas envie de répondre comme ça. C'est mieux d'avoir la parole d'un grand, grand, grand savant. C'est la même chose. Le mandoub, el mustahab, c'est la même chose. Wallahu a'lam. On vérifiera dans un prochain cours. Wa iyyakum, wa iyyakum. On vérifiera dans un... Je vous donnerai plus d'infos s'il y a divergence ou pas. Moi, je ne m'arrête pas là, hein. On a une parole d'un savant, déjà c'est bien, hein. Il y a des savants qui disent que ça a le même sens. Ça a le même sens, mandoum mustahab. Mais moi, je m'arrête pas là, on sait jamais s'il y a des divergences ou quoi. On essaiera de voir ça plus loin. Donc, je vais prendre la photo de vos deux questions, si vous me le permettez, pour les mettre dans mon cahier de questions. Parce que sinon, on dit, on va répondre, mais on va finir par oublier. Si je ne les mets pas, on va finir par, wallahu alam, oublier. Donc, je ne comprends pas. Le gage doit être écrit, sauf si on ne trouve pas de script pendant le voyage. Je veux bien que vous fassiez une recherche. Faut que je remonte, faut que je remonte, faut que je remonte. Taïb. Inch'Allah ta'ala, on se rejoint dans le deuxième cours pour le cours de comportement dans une vingtaine de minutes. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Ah, barakallahu fikoum. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce que moi, là, le musta'an, oh là là. Pour les photos et les captures d'écran, tout ça, c'est compliqué. Wa. D'accord, inshallah. Subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.